Vous écoutez Radio France Internationale, il est 20h à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir.
L'heure du grand journal du soir. Bonsoir Christophe Pagé.
Bonsoir Diane, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, toute une série de réunions sur l'Ukraine qui se déroule dans ce moment à Paris.
Oui, entre Américains, Européens et Ukrainiens. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'émissaire américain Steve Witkoff sont sur place. Il faut dire que Donald Trump, qui affirmait pouvoir arriver à une paix en un temps record, eh bien n'y arrive pas, d'où ce rapprochement avec les Européens. Ce sera le dossier de ce 20h. Une commission franco-haïtienne d'historiens va se pencher sur la très lourde indemnité financière imposée par la France à Haïti, son ex-colonie. Une dette qui avait lourdement handicapé la toute jeune République. C'est le président Emmanuel Macron qui l'a annoncé ce jeudi, sans évoquer pour le moment de réparation financière.
La présidente de la Conférence des religieux et des religieuses de France demande l'ouverture de toutes les archives sur l'abbé Pierre, y compris celles du Vatican.
Ce jeudi, un livre enquête sur le religieux affirme que le Vatican était au courant des violences sexuelles commises par le prêtre depuis 1955. Le Vatican qui aurait réclamé une procédure judiciaire freinée par les évêques de France. Détail à suivre avec Laurence Théo.
On commence ce journal par les entretiens ce jeudi à Paris entre les États-Unis, l'Ukraine et les Européens.
Oui, sujet principal, la guerre en Ukraine et comment y mettre un terme. Emmanuel Macron évoque ce soir une occasion importante d'avoir une convergence. Avec nous, Pierre-Olivier, du service international de RFI. Bonsoir.
Bonsoir.
Avoir une convergence sous-entendu vers la fin du conflit russo-ukrainien.
Oui, en tout cas, l'Élysée parle ce soir de discussions excellentes, positives et constructives en faveur d'une paix solide auxquelles les Européens sont associés. Car toute la journée, des réunions se sont enchaînées en cascade à Paris. Un moyen pour l'Europe, jusqu'à présent exclue des discussions, de se repositionner dans le jeu tout en servant aussi d'intermédiaire. Car des représentants ukrainiens étaient présents ce jeudi. Le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, mais aussi les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Également présent, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, et l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff. Le tout aux côtés du président Emmanuel Macron et de représentants de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. Il s'agit donc bien, vous l'aurez compris, d'un rapprochement avec d'un côté l'Europe qui cherche à imposer sa voix et de l'autre les États-Unis qui veulent plus que jamais mettre un terme au conflit. Ce soir, sur X, Marco Rubio a posté qu'il était à Paris avec un seul but, trouver des solutions concrètes pour terminer la guerre et mettre fin au bain de sang inutile.
Alors Pierre-Olivier, est-ce qu'on en sait plus sur les mesures qui seront prises ?
Alors pour l'instant, peu de choses ont fuité après cette journée de discussion. Des discussions qui sont en tout cas rares et qui pourraient aboutir à une ligne commune entre les Européens et les Américains. Une idée qui irrite d'ailleurs la Russie, puisque le Kremlin a accusé aujourd'hui les Européens de vouloir perturber le dialogue bilatéral renaissant entre Moscou et Washington. Il faut dire que depuis le rapprochement spectaculaire de Donald Trump avec Vladimir Poutine, la ligne commune que tenaient Européens et Américains face à la Russie s'est fortement distendue. Et ces entretiens à Paris ce jeudi peuvent aussi être perçus comme un souhait de Washington, si ce n'est de s'allier, en tout cas de se rapprocher des Européens.
Alors pourquoi ce changement de direction ?
Eh bien souvenez-vous, pendant sa campagne, Donald Trump avait promis de mettre fin au conflit russo-ukrainien en 24 heures. Mais les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu. Et désormais, le président américain s'impatiente et fustige aussi bien la Russie que l'Ukraine, qui l'accuse de ne pas vraiment vouloir de cesser le feu. Les deux pays se sont pour l'instant contentés de mettre fin à leurs attaques réciproques en mer Noire, mais ils s'accusent mutuellement de ne pas respecter cette trêve. Alors pour tenter de faire avancer les choses, Washington se rapproche finalement des Européens. Les discussions entamées ce jeudi doivent permettre de trouver des points d'accord, notamment sur la question d'un contingent militaire international, la force de réassurance pour garantir une paix durable en Ukraine, une ligne rouge pour Moscou, à qui Européens et Américains devront apporter une réponse commune pour espérer parvenir enfin à un cessez-le-feu. De nouvelles discussions dans le même format sont déjà prévues la semaine prochaine à Londres. On verra alors si l'Europe et l'Amérique continuent toujours dans leur convergence, Christophe.
Merci Pierre-Olivier. Sur le terrain, l'armée ukrainienne revendique une rare contre-attaque réussie près de Pokrovsk, dans l'est du pays. Kiev affirme avoir ces dernières semaines repris environ 16 km² de territoire. Pendant ce temps, les forces russes continuent leur frappe. Ce jeudi, 3 personnes au moins ont été tuées et 10 autres blessées dans le sud du pays. De son côté, Moscou fait savoir qu'elle considérerait toute frappe sur des cibles russes avec des missiles allemands Taurus comme une participation directe de l'Allemagne à la guerre, avec toutes les conséquences que cela implique, a souligné la porte-parole de la diplomatie russe.
La Russie qui retire les talibans de sa liste des organisations terroristes.
Décision validée aujourd'hui par la Cour suprême russe, une mesure précise-t-elle à effet immédiat. Sur le papier, c'est donc un organe juridique qui vient de mettre fin à 22 ans de mise à l'index. Motif présenté par l'avocat russe des talibans, le tribunal est arrivé à la conclusion que les talibans avaient cessé de mener des activités visant à promouvoir, justifier et soutenir les crimes terroristes. Kaboul se félicite d'une décision historique. Correspondance Anis El-Jabri.
C'est au nom de la lutte contre le terrorisme que le rapprochement Moscou-Kaboul s'est accéléré. Plus précisément, à la suite de l'attentat du Crocus en mars 2024 près de la capitale russe, 145 personnes tuées dans une salle de concert par 4 tireurs du groupe de l'EIK, l'État islamique au Khorasan, soit la branche régionale de l'organisation djihadiste présente en Afghanistan, ennemi juré des talibans. Cette décision de la Cour suprême n'équivaut pas à ce stade à une reconnaissance formelle du gouvernement de retour au pouvoir depuis 2021. Aucun pays dans le monde ne l'a fait, mais ce geste reste un pas d'importance dans une normalisation en marche depuis bien longtemps en Russie. Avant même leur retour au pouvoir, Moscou avait ainsi reçu à plusieurs reprises des émissaires talibans sur son sol. Au Forum économique de Saint-Pétersbourg, leur délégation était aperçue dans les allées. Fin décembre, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, s'était rendu à Kaboul, une visite pendant laquelle il avait déclaré vouloir renforcer la coopération avec l'Afghanistan. La chaîne Telegram Ribar, réputée proche du ministère de la Défense, se réjouit ce jeudi, évoquant un potentiel de coopération économique et notamment des minéraux à exploiter. Anis El-Jabri, Moscou, RFI.
Dans la bande de Gaza, la défense civile annonce la mort d'au moins 40 Palestiniens ce jeudi, tués dans de nouvelles frappes israéliennes, entre une grande majorité des déplacés. De leur côté, 12 ONG, dont Médecins du Monde et Oxfam, soulignent que l'aide humanitaire à Gaza est menacée d'un effondrement total en raison du blocus imposé par Israël depuis le 2 mars, il y a un mois et demi, sur l'entrée de cette aide. Et ces ONG exhortent Israël à les laisser faire leur travail. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, était en visite ce jeudi à Téhéran, 2 jours avant de nouveau pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, ce sera ce samedi à Rome. Raphaël Grossi s'est entretenu dans la matinée avec son homologue iranien, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Aucun détail n'a filtré de cette rencontre. Par contre, le chef de l'AIEA a estimé que le temps était compté pour trouver un accord sur le nucléaire. Hier, dans un entretien au quotidien Le Monde, il affirmait que l'Iran n'était pas loin de disposer de la bombe atomique.
À Washington, aux États-Unis, un juge affirme que l'administration Trump a délibérément bafoué son interdiction d'expulser des immigrés.
Oui, et le juge fédéral parle même d'une forte présomption d'outrage au tribunal. Ces immigrés, ce sont les quelques 200 Vénézuéliens transférés à la mi-mars des États-Unis au Salvador. Le juge James Boasberg avait exigé que les immigrés ne soient pas extradés, ordre ignoré par le gouvernement. Gouvernement auquel le magistrat demande aujourd'hui de faire marche arrière sous peine de poursuite. Marine de la Moissonnière.
Selon le juge James Boasberg, l'administration Trump a délibérément bafoué sa décision. Le magistrat fédéral accorde désormais une semaine au gouvernement pour s'y plier, sans quoi il le poursuivra pour outrage au tribunal. La Maison-Blanche, qui a fait appel, a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle ne comptait pas rapatrier ces migrants. Le Salvador non plus n'a pas l'intention de les renvoyer aux États-Unis, ni même de leur donner l'occasion de prouver qu'ils n'appartiennent pas aux gangs vénézuéliens Tren de Aragua, comme l'affirme l'administration Trump. Jaime Ortega est l'avocat de 35 Vénézuéliens. Il n'a pas accès à ses clients.
Information officielle, ninguna.
Les autorités ne nous donnent aucune information officielle. Le gouvernement américain n'a même pas eu la décence de nous envoyer ne serait-ce qu'une décision de justice qui prouve que ces hommes ont bien été condamnés aux États-Unis pour appartenance à un groupe criminel. Ces personnes n'ont commis aucun délit au Salvador. Elles ne devraient donc pas se trouver dans une prison de haute sécurité.
Hier, un sénateur démocrate était sur place pour rencontrer Kilmar Abrego Garcia, ce salvadorien expulsé par erreur en même temps que les Vénézuéliens et détenu avec eux. Il n'a pas pu le voir ni même lui parler au téléphone. La justice américaine a pourtant ordonné son retour.
Marine de la Moissonnière, le Fonds monétaire international n'envisage pas de récession cette année et ce malgré les droits de douane de Donald Trump. Des droits de douane qui, certes, vont peser sur l'économie mondiale et provoquer un ralentissement cette année, mais sans la faire basculer dans la récession, estime le FMI.
Et RFI, il est 14h10 à Port-au-Prince. On en parlait dans le débat du jour. Cette annonce d'Emmanuel Macron, une commission franco-haïtienne d'historiens va se pencher sur la très lourde indemnité financière imposée par la France à son ex-colonie Haïti à partir du 17 avril 1825.
Oui, il y a très exactement 200 ans. Et cette dette avait lourdement handicapé la toute jeune République. D'autant qu'il s'agissait d'une double dette puisque pour la payer, Haïti avait dû emprunter de l'argent à des taux très élevés auprès de banques française. Le président français Emmanuel Macron a reconnu aujourd'hui l'injustice de cette décision sur laquelle la commission mixte va se pencher pour en examiner les conséquences et proposer des recommandations. Pierre Urmic est le maire écologiste de Bordeaux et il co-signe ce jeudi dans le journal Le Monde une tribune avec ses collègues de La Rochelle et de Nantes. Les trois villes s'engagent à travailler sur leur passé esclavagiste, notamment en direction d'Haïti. Et selon Pierre Urmic, la déclaration d'Emmanuel Macron va dans le bon sens. Alors nous allons entendre dans quelques instants Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui s'exprime sur Haïti. Pierre Urmic qui a joint Aurélien Devernois. En attendant, sachez que le président français n'a pas évoqué dans son discours ce matin de réparation financière, mais hier, l'Élysée indiquait que le chef de l'État tirait toutes les conclusions à l'issue de ce travail de mémoire. On écoute Pierre Urmic, le maire de Bordeaux.
Ce sont des mots très forts et je pense qu'ils sont à la hauteur d'une reconnaissance de responsabilité. C'est pour ça que je considère que cette déclaration d'Emmanuel Macron est déjà une avancée significative. Après deux siècles de silence, la France met sur la scène publique la question de la double dette. Et la commission proposée par Emmanuel Macron, c'est un travail historique. Moi, j'ai tendance à penser qu'elle ne doit pas se contenter de rester dans le registre de l'histoire. Elle doit dépasser ce cadre-là en incluant aussi des approches économiques, juridiques, sociales, culturelles, écologiques pour éclairer les séquelles lourdes qu'Haïti porte aujourd'hui du fait de cette dette injuste.
Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, joint par Aurélien Devernois. En Nouvelle-Calédonie, il va de nouveau être possible de manifester. La justice française vient d'ordonner la suspension des interdictions qui étaient encore en vigueur dans plusieurs communes. Interdictions mises en place après les émeutes d'il y a un an. Le caillou, comme on l'appelle, avait alors connu plusieurs semaines de violence suite au projet du gouvernement de réformer le corps électoral calédonien. Des émeutes qui avaient fait 14 morts et plus de 2 milliards d'euros de dégâts.
De nouvelles révélations dans le scandale des violences sexuelles qui visent l'abbé Pierre, le célèbre prêtre français, défenseur des plus pauvres et aujourd'hui décédé.
Dans un livre enquête paru ce jeudi, deux journalistes de La Croix et de Radio France affirment que d'une part, le Vatican était au courant des agissements de l'abbé Pierre depuis 1955 et que de l'autre, l'Église de France avait bien été alertée. Ces révélations sont très graves, estime la conférence des évêques de France, Laurence Théo.
La conférence des évêques de France précise qu'elle n'avait pas connaissance des éléments qui figurent dans l'ouvrage et qu'elle n'en trouve pas trace dans ses archives. Elle va donc se rapprocher du Vatican et convient que c'est une bonne chose que la vérité puisse être faite. De son côté, la présidente de la conférence des religieux et religieuses de France réclame l'ouverture de toutes les archives sur l'abbé Pierre, y compris celles du Vatican, pour permettre aux chercheurs de travailler sur ses agissements et l'impunité dont il a bénéficié. Dans leur livre, les deux journalistes sont formels. Dès l'automne 1955, le haut clergé français connaissait la face noire et la dangerosité de l'abbé Pierre. Et avec cette nouvelle révélation, l'hypothèse d'une protection sciemment organisée en France se confirme. Les autrices qui ont retrouvé la trace d'une réunion consacrée à l'abbé rapportent en effet qu'une procédure judiciaire avait été freinée par les évêques de France, puis enterrée deux ans plus tard, en 1957. Par ailleurs, un courrier daté de 1955 a été envoyé à l'évêque de Versailles en poste à l'époque, lequel répond que les faits ne sont pas si graves et surtout que l'abbé dispose d'une telle aura en France qu'il vaut mieux ne pas bouger. Il parle d'un symbole qui galvanise à la manière d'un prophète.
Gisèle Pellicot va porter plainte contre Paris Match. Le magazine a publié 7 photos volées de la victime des viols de Mazan, où elle est accompagnée d'un homme présenté par le magazine comme son compagnon. Sur le fond, a expliqué son avocat, c'est très choquant, vu qu'il s'agit d'une femme dont le consentement a été nié pendant 10 ans et dont le calvaire a été rappelé par les quelques 3000 photos et vidéos prises à son insu. Faire l'objet après ça d'une paparazzade, c'est n'avoir rien compris à ces 5 mois de procès, a insisté Maître Camus.
RFI, il est 3h14 à Séoul, la Corée du Sud, où les aéroports sont en difficulté face aux fans de K-pop.
Oui, ces fans souhaitant voir leur célébrité préférée, du coup, ils se pressent au départ ou à l'arrivée de leur vol à Séoul, ce qui fait quand même des rassemblements de centaines de personnes dans les halls des aéroports, avec comme résultat d'importants problèmes logistiques, on s'en doute. Et s'ils connaissent aussi bien les emplois du temps de leurs chanteurs et chanteuses préférées, c'est grâce à des réseaux de recel d'informations sur ces vols. Correspondance Célio Fioretti.
Bousculade à l'aéroport de Gimpo, près de Séoul, entre passagers, sécurité et fans de K-pop venus assister au départ de leur groupe préféré, gênant le fonctionnement de l'aéroport. Une scène qui devient de plus en plus fréquente depuis la mise en place de réseaux de recel d'informations de vol. Sur les réseaux sociaux, des employés de compagnies aériennes ayant accès à des données privées vendent aux fans, parfois contre moins d'un euro, les informations exactes d'arrivée et de départ de célébrités, un réseau qui facilite les regroupements de fans aux aéroports. Un problème qui dépasse les autorités qui craignent pour la sécurité des stars de K-pop dans les aéroports et même durant les vols. Certains fans ont déjà acheté des billets sur les mêmes vols pour s'approcher de leur idole. La police travaille avec les agences d'artistes pour démanteler ces réseaux de recel d'informations. En février, la police sud-coréenne a arrêté une jeune femme suspectée d'avoir vendu pour 7000 euros d'informations confidentielles sur les itinéraires de nombreuses célébrités. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Et puis des nouvelles de Roland Garros.
Oui, le célèbre tournoi de tennis français sur terre battue. Eh bien, on a appris aujourd'hui qu'il conservera ses juges de ligne pour l'édition 2025, qui se déroulera du 25 mai au 9 juin. Roland Garros, c'est le dernier tournoi du Grand Chelem à ne pas avoir recours à l'arbitrage électronique en direct.
Merci beaucoup, Christophe Paget. C'était le Grand Journal International du soir.
RFI Soir. Diane Berger.
18h16 en temps universel. Dans une dizaine de minutes, vous retrouvez Sylvie Berruet pour Afrique Soir. Avant cela, on va faire une étape au Groenland où nous emmènent nos confrères du journal Le Point. Le territoire de l'Arctique est convoité, on le rappelle, par Donald Trump. Et puis, on se penchera aussi sur la grève des paroissiennes, un mouvement symbolique porté par des femmes catholiques pour dénoncer le manque de reconnaissance de leur action bénévole au sein des églises. Mais d'abord, c'est l'heure de faire le point sur l'actualité sportive. Le journal des sports, c'est avec vous, Baptiste Leduc, bonsoir.
Bonsoir Diane, bonsoir à tous.
Du football, après la Ligue des Champions, place à sa petite sœur ce jeudi, la Ligue Europa. L'Olympique Lyonnais rend visite à Manchester United pour un quart de finale retour très ouvert.
Oui, tout est possible après le nul du match aller, 2-2 à Lyon. Les Lyonnais arrivent pleins de confiance, ce qui n'est pas le cas des Mancuniens, à la peine en première ligue et sèchement battus encore ce week-end, 4-1 par Newcastle. Les Red Devils ne sont toutefois pas à prendre à la légère pour Corentin Tolisso. Le milieu de l'Olympique lyonnais s'attend à tout sauf à un adversaire en berne à Old Trafford.
En Europa League, c'est un peu une, on va dire, une autre équipe. Elle n'a pas encore perdu cette année, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, malgré le match aller, on a vu que c'était quand même une équipe aussi assez solide. Je pense qu'il ne va pas falloir compter sur ce qu'ils soient faibles eux, mais il va falloir qu'on soit très très fort nous, donc se concentrer sur nous, l'intensité qu'on peut mettre dans chaque duel. Sur chaque phase, et je pense que voilà, la clé du match, ça va être ça, vraiment se concentrer sur nous, essayer d'être les meilleurs possibles et pas attendre une erreur de leur part.
Manchester United, Olympique Lyonnais, quart de finale, retour de la Ligue Europa, coup d'envoi à 19h, temps universel.
Dans le même temps auront lieu les trois autres quarts de finale, avec là aussi beaucoup de suspense.
Personne n'est tranquille ce soir. Les Allemands de l'Eintracht Francfort, vainqueurs de la compétition en 2022, ont l'avantage du terrain contre Tottenham, après le nul 1-1 en terre anglaise à l'aller. Même chose pour Bilbao, qui accueille les Glasgow Rangers, motivation supplémentaire pour les Basques. Ils accueilleront la finale de cette Ligue Europa, qu'ils y participent ou pas dans leur stade. Enfin, les seuls à avoir pris un avantage à l'aller, ce sont les surprenants Norvégiens de Bodø/Glimt. Ils avaient battu la Lazio Rome 2-0, mais s'attendent forcément à souffrir ce soir dans la capitale italienne.
Voilà pour le football et à présent le tennis. Les organisateurs du tournoi de Roland-Garros ont dévoilé les contours de la prochaine édition.
On en a parlé il y a un instant, cette édition qui aura lieu du 25 mai au 8 juin prochain. Et en plus des juges de ligne donc qui seront conservés, cette édition sera placée sous le signe des hommages aux légendes de la Porte d'Auteuil. Richard Gasquet, le Français qui a prévu de prendre sa retraite après sa 23e participation. Marie Pierce aussi, dernière Française à s'être imposée à Paris en 2000. Mais bien sûr, celui qui prendra le plus de place, c'est le roi des lieux, l'Espagnol Rafael Nadal, 14 fois vainqueur du tournoi. Rien de plus normal pour la directrice de Roland-Garros, Amélie Mauresmo, au micro de Christophe Diremzian.
C'est une envie qu'on avait déjà l'année dernière et qu'on n'a pas pu mettre en place, de lui rendre hommage, hommage à cette histoire hallucinante qu'il a avec le tournoi de Roland-Garros et ses 14 victoires. Donc plein de belles choses et on espère que ça sera un moment surtout d'émotion, je dirais d'abord pour lui, parce qu'il le mérite, et puis évidemment pour tous les gens qui sont dans le stade. Ensuite, il y a Marie, elle a gagné en 2000. En 2020, c'était l'édition Covid, donc les 20 ans de sa victoire n'avaient pas pu être fêtés. Et surtout aussi son entrée au Hall of Fame l'année dernière. On a voulu lui rendre hommage, donc ce sera entre les deux demi-finales femmes. Et puis Richard, évidemment, toute son histoire depuis tant d'années à Roland-Garros, on a envie, il l'a dit, ça allait être son dernier tournoi, on a envie de lui rendre hommage et de faire un petit moment aussi d'émotion pour lui.
Voilà, rendez-vous dans 5 semaines maintenant pour ces 124e internationaux de France de tennis.
Merci beaucoup Baptiste Leduc pour ce journal des sports. Le Groenland, objet de convoitise pour Donald Trump, le président américain qui rêve d'annexer le territoire de l'Arctique, actuellement rattaché au Danemark. C'est l'objet d'un grand reportage dans le journal Le Point cette semaine. Et on en parle avec le journaliste du Point, justement, Boris Mabillard. Bonsoir Boris.
Bonsoir.
Vous revenez donc du Groenland. Racontez-nous quel est l'état d'esprit des autorités du Groenland.
Alors, les déclarations de Trump et son projet d'annexion ou de rachat, c'est selon du Groenland, ont créé un véritable séisme et la population a fortement réagi. Il y a eu des manifestations avec un mot d'ordre, nous ne sommes pas à vendre. Les partis politiques sont un peu sur la même ligne, à l'exception près peut-être de certains membres du parti Nalérak, qui est le seul parti d'opposition désormais, et auprès duquel on trouvera quelques personnes ou quelques députés plutôt favorables à un rapprochement avec Donald Trump, les États-Unis, disons. Mais dans l'ensemble, les Groenlandais voient les déclarations américaines, ou plutôt ont vu dans un premier temps les déclarations américaines comme une voie pour s'émanciper du Danemark, de la tutelle danoise. Et aujourd'hui, ça leur fait un peu peur, car tout à coup, ce projet de rachat devient très sérieux, et en aucun cas, ils voudraient troquer une tutelle la danoise contre une autre américaine, celle-là.
Oui, c'est ça. Une grande partie de l'échiquier politique groenlandais demande plutôt l'indépendance. Après, c'est la question, c'est à plus ou moins court terme, moyen terme, long terme. Là, finalement, c'est pas une solution qui les arrange du tout.
Alors, l'indépendance, c'est l'unanimité. C'est après, c'est quel tempo. La grande difficulté, c'est de remplacer la manne danoise. C'est-à-dire, le Danemark paye beaucoup d'argent chaque année. 4 milliards de couronnes danoises, beaucoup, beaucoup d'argent, et il faut remplacer ça. Comment le remplacer? Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit la pêche, mais la pêche, les eaux du Groenland sont très poissonneuses, mais pas assez néanmoins pour apporter tant d'argent. Donc ce serait les mines. Et là, un certain nombre de partis, notamment le parti écologiste, ne veut pas en entendre parler, car ces mines au sud du pays sont des mines de terres rares, très convoité, mais il y a aussi de l'uranium, donc ça produirait un certain nombre de déchets radioactifs, et ça, évidemment, les Groenlandais n'en veulent pas. Ils sont partagés entre l'envie de vivre selon leur culture ancestrale, c'est-à-dire très proche de la nature, et peut-être de recevoir plus de touristes, ça c'est une possibilité aussi pour avoir quelques revenus, et leur envie d'avoir beaucoup plus d'argent pour assurer le manque à gagner s'il devait être totalement indépendant. Et ça, ce seraient les mines qui pourraient y pourvoir. C'est compliqué pour eux.
Et ce sous-sol groenlandais, justement, on sait qu'il regorge d'un certain nombre de ressources, il y a notamment de l'uranium, mais est-ce qu'il est facile à exploiter? Est-ce que ce serait facile, en fait, de faire une transition économique de ce que vous avez pu constater, vous, sur le terrain?
La difficulté, je suis allé dans le sud, sur l'ancienne base américaine, car les Américains ont été très présents au Groenland durant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Comme le Danemark était sous occupation, les Américains sont venus pour protéger le Groenland d'une occupation nazie. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont créé un certain nombre de bases partout dans le pays, sur les côtes, notamment au sud. Ils en sont ensuite partis, mais ils n'ont pas créé d'infrastructure routière. Évidemment non, puisque la difficulté au Groenland, c'est cette calotte glaciaire, l'Islandis, qui recouvre l'ensemble du pays et qui empêche d'avoir des communications par voie terrestre entre les différentes localités qui sont sur le pourtour du pays. Et l'exploitation des ressources, elle se heurte à cela, l'absence d'infrastructures, la présence de neige et de glace toute une partie de l'année, notamment les mois d'hiver. Et puis, pour ce qui est de l'intérieur, ben, c'est toute l'année, c'est la calotte glaciaire qui est là et qui pèse sur le Groenland. Donc, des ressources, il y en a. Les exploiter, c'est une autre paire de manches. Et tout le monde y consent, c'est que pour qu'une mine soit rentable, il faut des quantités d'investissement et puis beaucoup de temps, en tout cas 10 ans, on dirait plutôt une vingtaine d'années. Donc c'est un Eldorado, mais c'est un Eldorado à long terme.
Eh bien, merci beaucoup Boris Mabillard pour ces éclairages. Je rappelle, votre reportage est donc à retrouver dans l'édition du Point de cette semaine. Merci.
Et je vous remercie. Au revoir.
Ce jeudi, c'est la fin du carême pour les centaines de millions de chrétiens dans le monde. À l'approche de Pâques dimanche, on se penche sur un mouvement inédit au sein de l'Église catholique. Pendant tout le carême, des femmes paroissiennes ont été appelées à faire grève. Une mobilisation née aux États-Unis qui a trouvé un écho ensuite en Espagne, en Pologne, en Inde, mais aussi en France. Il s'agit d'une action symbolique pour pointer tout un paradoxe, car ces femmes bénévoles sont indispensables à la vie des églises, mais elles n'ont un rôle que secondaire dans les instances religieuses. Reportage dans le petit village de Saint-Sauvent, en Charente-Maritime, c'est dans l'ouest de la France, et c'est signé Baptiste Coulon.
Elle nous porte tous dans le village, elle veille sur nous, elle est imposante, elle est grande, elle est massive, elle a une présence et voilà, je suis bien avec elle.
Cela fait 40 ans que Florence est paroissienne dans l'église de Saint-Sauvent. 40 années d'un service essentiel pour maintenir quelques messes tous les ans.
Nous sommes des petites mains. Ça veut dire faire toutes les petites tâches, les petites besognes, les petites choses ennuyeuses aussi, mais qui sont nécessaires, quoi. Laver les nappes, les repasser, les mettre sur l'autel, faire les bouquets.
C'est un travail qui demande du temps, j'imagine, et de l'énergie.
Oui, mais on est, je suis pas toute seule. Hein. On a un bon groupe. Hein.
Mais ce sont souvent des femmes qui s'y collent.
Ce sont des femmes, absolument. On voudrait que ça change, ça c'est sûr. Moi, je soutiens totalement les femmes qui décident de dire partageons plus les tâches, voilà.
Florence n'a pas officiellement rejoint le mouvement, contrairement à Alice, elle aussi paroissienne. Sur son sac, un petit pins, femme catholique en grève, elle dénonce l'absence de consultation dans les assemblées locales et les diocèses.
On vient nous demander notre avis de temps en temps ou des conseils, mais on ne peut pas voter, on ne peut pas choisir. Si un jour quelqu'un dans la hiérarchie est contre nous ou nous refuse quelque chose, on n'a pas de recours possible. Évidemment, les décisions se prennent entre clercs, entre prêtres. Quand on veut exprimer quelque chose, on est un petit peu relégué à l'arrière-boutique, quoi.
Dans ce village de 500 habitants et aux alentours, la grève est accueillie de façon contrastée par les fidèles.
Certains ont ri en disant « oui, c'est pas demain que vous changerez le monde hein. ».
Partagez aussi les membres du clergé, à quelques exceptions.
Je m'appelle Gilles et je suis diacre depuis 11 ans.
Dans cette paroisse, Gilles Cavaro est peut-être l'un des rares à porter une autre parole, celle d'un homme d'église qui prône l'égalité.
Le Christ voulait que les femmes aient plus de place dans l'église et qu'actuellement l'église est plutôt en retrait par rapport à ce que lui a montré quand il a vécu sur cette terre. Je trouve que la place de la femme devrait être revisitée et ajustée au message évangélique.
Ce qui est drôle, c'est qu'avant la grève, j'aurais jamais pu penser vraiment que Gilles était pour cette ouverture. Ça fait plaisir d'entendre ça, mais c'est pas majoritaire.
Ouvrir le dialogue sur la place des femmes dans l'église, c'est tout l'intérêt de cette grève.
C'était une discussion qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'avoir et qu'on a pu avoir grâce à ce temps un peu de grève.
Même là, nous, dans la paroisse, on n'a pas beaucoup parlé. Hein, donc je pense qu'il serait mieux qu'il y ait encore plus de discussions par rapport à ça. Hein. Pour moi, la question principale, c'est comment travailler mieux ensemble, marcher ensemble vers le Christ. Donc hommes et femmes ensemble, et c'est important.
Le dialogue ouvert, Gilles, Alice et Florence promettent de le poursuivre bientôt autour d'un repas.
Un reportage de Baptiste Coulon que vous pouvez retrouver sur notre site www.rfi.fr. Le site de RFI où vous pouvez évidemment retrouver toutes nos informations, nos émissions, les débats, les décryptages. Il est maintenant 20h28 à Paris, 18h28 à Bamako. Un immense merci à Hélène Avril, à la réalisation de RFI Soir. Et là, c'est Sylvie Berruet qui va prendre le relais pour un point sur les actualités africaines. Restez à l'écoute de RFI.
Ce samedi sur RFI, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Bruno Faure.
La Côte d'Ivoire est la première économie de la zone UMOA, en forte croissance, mais dépendante aussi de la conjoncture internationale. Sa ministre de l'économie, Niale Kaba, est notre invitée alors que le pays se prépare à une échéance électorale majeure.
Éco d'ici, éco d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité en 2023, en tant qu'ensemble de rituels de gouvernance, le Ngwon fait partie de l'identité culturelle des Bamoun du Cameroun. Que représente-t-il? Son instance démocratique, ses modes d'expression, nous en parlons ce week-end.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.